France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur le diesel, ce qu'on a appelé le Dieselgate est encore en cours. Les constructeurs ayant truqué les mesures de pollution réelles émises par leurs véhicules vont devoir payer des amendes absolument colossales. La pollution au diesel est par ailleurs bien connue et documentée, on va y revenir en détail. Alors, faut-il tout simplement tourner la page de ce carburant, favoriser des alternatives au lieu d'essayer de rafistoler un système qui prend l'eau? Intervenez, amis auditeurs, jusqu'à 20h dans ce téléphone sonne.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Michel, bonsoir. Ah, vous avez raccroché, Michel. Bah, je vais présenter les invités du téléphone sonne le temps qu'on vous retrouve. François Roudier, bonsoir.
Bonsoir.
Porte-parole du comité des constructeurs français d'automobiles. Stéphane Kerkhove, bonsoir.
Bonsoir.
Délégué général d'Agir pour l'environnement. Christophe Najdowski, bonsoir.
Bonsoir.
Allez, je prends mon élan. Adjoint à la mairie de Paris, chargé de toutes les questions relatives au transport, à la voirie, au déplacement et à l'espace public. Qui est en ligne au standard d'Inter? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Richard, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, nous vous écoutons, Richard.
Bon voilà, alors moi je suis un utilisateur inconditionnel pour l'instant du moteur diesel au-delà des problèmes de pollution pour plusieurs raisons principales. D'abord, les moteurs diesel consomment beaucoup moins que les moteurs essence. Ils durent beaucoup plus longtemps et ont beaucoup plus de couple. Donc, à puissance égale, un véhicule diesel a un rayon d'action beaucoup plus important qu'un véhicule avec le même moteur essence. Alors, moi je ferai peut-être partie des gens qui passeront du moteur diesel au moteur essence à partir du moment où les motoristes nous feront des moteurs essence avec les mêmes performances en consommation, en couple, en durée de vie du moteur et en rayon d'action que les moteurs diesel. Et alors, en attendant tout ça, il y aurait peut-être une solution intermédiaire qui, au lieu d'augmenter le prix de la taxe sur le gasoil, pourquoi ne pas baisser la taxe sur le carburant, sur les essences? Voilà.
Merci beaucoup, Richard, pour cet ensemble de questions. La parole pour commencer à François Roudier.
On a une technologie moteur essence dite 3 cylindres qui fonctionne bien. Et en fait, c'est une techno qu'on a développée dans les années de crise autour de 2008. Et c'est ce qui explique actuellement la baisse du diesel dans les immatriculations en France. C'est que ces moteurs-là sont extrêmement compétitifs. Vous étiez avant, allez, il y a 20 ans, on avait une différence de 20 à 25% contre consommation d'un moteur gazole et d'un moteur essence. Maintenant, on arrive à peine à 5. Et ces moteurs, lorsque vous roulez moins de 15 000, voire moins de 10 000 km par an, sont beaucoup plus intéressants. Les moteurs essence nouveaux sont beaucoup plus profitables que ce qu'on avait avant sur du diesel.
Stéphane Kerkhove.
Oui, et puis alors, on peut continuer la comparaison. Il n'y a pas que le couple, la consommation. Il y a aussi les conséquences sanitaires. Le diesel, aujourd'hui, c'est 48 000 morts par an en France. C'est 9% de la mortalité. Donc, à un moment, il faut aussi savoir regarder.
Non, c'est pas 48 000. Non, c'est attention.
C'est la pollution
attention,
de l'air.
Vous êtes en train, c'est la pollution de l'air. Attention, parce que lorsque vous annoncez ce chiffre-là, vous donnez du moulin, vous donnez du grain à moudre aux pro-dieselistes farouches. C'est pas vrai. Attention,
non,
il y a
non,
une
non,
petite
non,
partie.
Non, je pense pas.
Petit part. Transport et environnement a annoncé que 70 000 personnes en Europe étaient touchées par la pollution, dont une grande partie par le diesel.
La précision a été faite. Maintenant, Stéphane Kerkhove, vous pouvez continuer.
Oui, enfin, par-delà la querelle de chiffres, l'OMS a reconnu le diesel comme un cancérigène certain en 2002, probable en 1988. Donc, ça fait déjà longtemps qu'on sait que cette technologie a un impact sanitaire certain. Donc, à un moment, il faut tout mettre en œuvre pour éviter ces effets sanitaires et notamment développer les alternatives.
Qui sont ?
Qui peuvent être en milieu urbain, la marche à pied, le vélo, les transports en commun, le covoiturage, etc. etc. Il y a une palette qui, quand on regarde dans les autres pays étrangers, nous montre le chemin à suivre.
Christophe Najdowski.
Le diesel, en fait, à l'origine, n'est pas un mode de propulsion pour des véhicules urbains. C'est un mode de propulsion pour les bateaux, pour des camions, donc qui font de longues distances, pour les tracteurs, mais pas pour la ville. Il s'est imposé, par erreur, j'ai envie de dire, en tout cas contre nature, sur des petits véhicules urbains. Et d'ailleurs, on voit maintenant que Avec le renchérissement des coûts des dispositifs anti-pollution, eh bien le diesel disparaît de ces gammes urbaines parce que ça a été une erreur, ça a été une hérésie. Il a été subventionné par le passé, mais on voit à la fois ses effets sanitaires. On voit que par exemple les filtres anti-pollution ne fonctionnent pas peut-être pendant les premiers kilomètres. Or, en milieu urbain, souvent il y a des déplacements de faible distance, donc les dispositifs anti-pollution ne fonctionnent pas ou en tout cas ne fonctionnent pas à plein. Donc le diesel n'est pas un mode adapté au mode urbain. Alors Richard, peut-être notre auditeur, lui a peut-être un véhicule qu'il utilise pour de longues distances en milieu peut-être rural ou pour des raisons donc de déplacement sur de longues distances. Mais en tout cas, ça n'est pas le diesel n'est pas un mode adapté à la vie urbaine et donc il faut trouver d'autres alternatives. Stéphane Kerkhove a évoqué les autres modes de déplacement, mais aussi donc d'autres modes de propulsion, l'électrique ou encore l'hydrogène par exemple.
On va y dire, il y a déjà beaucoup de questions là-dessus. Alors François Roudier, encore un mot et on retourne au standard.
Si Richard veut plus de couple, techniquement, il faut de l'électrique. Le moteur électrique lance 100% du couple, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus puissant qu'un moteur essence ou qu'un moteur diesel.
Michel, bonsoir.
Oui, bonsoir. Oui.
Eh bien, on vous a retrouvé, la ligne avait coupé. Vous avez la parole.
C'est donc juste pour vous dire que bon, l'essentiel a été dit. Hein. Je pense qu'en effet, le moteur diesel en milieu urbain n'est pas forcément le plus adapté. Maintenant, il faut être conscient du fait que c'est reste le moteur le plus économe, notamment pour des gros véhicules, des camions, des bateaux, enfin tout ce que vous voulez. Et que ça serait vraiment une erreur du point de vue des émissions de CO2 de se passer du diesel rapidement. Quoi. Voilà. Maintenant, il faut trouver peut-être des alternatives à long terme et notamment par le gaz ou des choses comme ça, mais ça restera difficile de s'en passer pour le transport, notamment de marchandises.
On vous entend mal, Michel. Je suis absolument désolé de la liaison qui a été d'abord coupée et maintenant mauvaise. Mais on a compris le sens de votre intervention. On va avoir du mal à sortir du diesel, a dit notre auditeur François Roudier. Est-ce qu'on en a envie déjà de sortir du diesel?
Écoutez, d'abord, ce sont les clients qui décident. Et les clients décident en achetant des voitures essence actuellement. Et en fait, vous avez aussi une offre de véhicules et de motorisation qui est très différente. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit une dieselisation sur le haut de la gamme, c'est-à-dire là où nous, constructeurs français, on n'est pas présents. C'est-à-dire les grosses berlines allemandes sont dieselisées à 80-90% dans leurs ventes. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que sur des véhicules qui avant étaient considérés comme des gros véhicules, je pense au nouveau 3008 par exemple, le nouveau 3008 est vendu à plus de 40% en essence. Et ça augmente, et ça augmente. Et je vous parle pas des dernières voitures vendues, les dernières sorties, où là on est à peu près à 20% sur des petites voitures en essence, en diesel, et encore sur des véhicules société. Donc on voit que l'offre a changé le marché.
D'où vient la passion française pour le diesel? Car j'ai bien l'impression que c'en est une.
C'est l'économie. Quand vous posez au client une question, la question qui revient tout le temps, c'est combien ma voiture va consommer. Donc si vous consommez moins, si en plus le carburant est moins cher, vous êtes forcément partant sur ce système.
Stéphane Kerkhove.
Oui, c'est une collusion depuis près de 30 ou 40 ans entre les pouvoirs publics et certains industriels, et notamment Peugeot pour pas le cacher. Jacques Calvé, qui était le président de Peugeot, a réussi à imposer, à normaliser le diesel et à communiquer sur le diesel propre depuis maintenant trois décennies. La question, est-ce qu'on peut sortir du diesel? Nous sommes en train de sortir du diesel. En 2008, il y avait 77% des véhicules qui étaient vendus sous forme diesel, motorisation diesel. Aujourd'hui, on est à 52%. Donc, il y a une descente progressive et un rééquilibrage progressif. Donc, globalement, la question est presque derrière nous.
Il faut laisser passer un peu de temps pour que le stock baisse, c'est ça?
Oui, puis que les industries finissent par entendre que on n'est pas seul au monde et qu'à un moment, écoutez, quand certains pays sortent du diesel...
En France, on l'a entendu, on est à 47% en diesel au mois dernier.
Pourquoi vous avez triché sur les émissions de pollution?
Arrêtons d'un polo n'importe quoi, il y a un dieselgate, il y a un Volkswagengate. Il y en a un qui a triché, qui avait un logiciel
Renault,
frauduleux.
Ça va?
Mais la commission royale a montré qu'il n'y avait pas de logiciel frauduleux chez tout le monde, sauf chez Volkswagen. La seule différence que vous avez, c'est que le test actuel qui détermine la consommation, les émissions, est un test très ancien et on va passer à un nouveau test qui va être à la fois en laboratoire et en émissions réelles, c'est-à-dire en roulage, on appelle ça RDE, c'est assez barbare comme terme. Et là, par rapport à des essais qui profilerait ce que serait le test RDE, il y a eu effectivement des différences.
Non, mais vous avez triché.
Il n'y a pas de triche, attendez, il n'y a pas de triche par rapport à la norme.
Les amendes vont être payées par qui et données donc à des innocents,
Moi, je ne représente pas Volkswagen, donc je ne parlerai pas pour le Volkswagen qui est quand même le seul à avoir triché. Je vous signale, à tricher sur une norme américaine, qui n'est pas une norme française. Nos amis américains qui n'ont aucune norme sur le CO2 ont par contre une norme extrêmement dure sur les oxydes d'azote. Bon, et là-dessus, il y a eu une triche qui a été avérée, qui n'a même pas été découverte, qui a été avérée par Volkswagen.
Non mais Stéphane Kerkhoff et puis Christophe Najdowski, je me sens très seul à dire que les l'industrie automobile a triché. En fait non, c'est un scoop.
Rassurez-vous, non, les constructeurs vivent un peu dans un monde parallèle où on est dans une tricherie légale, c'est-à-dire que le cycle d'homologation permet un certain nombre d'entorses qui vont amener les constructeurs à diffuser une information qui n'est pas une réalité. On est dans une espèce de post-réalité où, en gros, 79% des véhicules Euro 5 dépassent les normes par rapport à la réalité en conduite réelle, mais à cause d'une espèce de jeu de dupes et d'entorses sur l'homologation, on finit par annoncer des chiffres qui ne reflètent plus du tout la réalité. La Commission royale a montré que notamment Renault avait un véhicule qui rejetait 17 fois plus que les émissions annoncées. Donc on est vraiment aujourd'hui sur un gap entre les cycles d'homologation qui permettent aux constructeurs de minorer les émissions, notamment de dioxyde d'azote et de microparticules, et la réalité en conduite réelle, qui sont juste phénoménales.
Christophe Najdowski.
Oui, et d'ailleurs, on voit que ces écarts, c'est des fois 10, hein, c'est-à-dire qu'on a 10 fois plus d'émissions d'oxyde d'azote que ce qui est dit par les constructeurs.
Donc, mais c'est de la triche.
Ça pose un vrai problème. Alors, on est dans un jeu de dupes, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, les cycles d'homologation sont ce qu'ils sont, mais en réalité, ils correspondent pas du tout à la vie réelle d'une voiture et de la conduite, notamment en ville.
Et donc, dans la réalité... Si le thermomètre est cassé,
c'est revoir complètement les cycles d'homologation au niveau européen et que l'on ait enfin une agence européenne indépendante des constructeurs automobiles, parce qu'aujourd'hui, ces agences d'homologation, elles sont, je dirais, pieds et poings liés avec les constructeurs, pour pas dire main dans la main, en réalité. Et en réalité, bon, quand vous êtes juge et parti, on sait très bien ce que ça donne.
Des filiales.
On en voit les conséquences. Donc, ce qu'il faut, et c'était notamment le combat qu'a mené ma collègue eurodéputée Karima Delli au Parlement européen, pour faire en sorte que l'on ait enfin une agence indépendante à l'échelle européenne. Alors, il y a des petits pas qui vont dans la bonne direction, mais avec la Commission qui va enfin mettre un peu son nez dedans, mais ça ne suffit pas par rapport au scandale sanitaire que ça représente, parce que je vous parlais par exemple de ce qui se passe à Paris. À Paris, la principale source de pollution atmosphérique, c'est le trafic routier. On a aujourd'hui un parc de véhicules, tout confondu, qui est très largement dieselisé, puisqu'on avait un pic de production de véhicules diesel à la fin des années 2000, vers 2008-2010, qui était à plus de 75%. Et aujourd'hui, donc, on a un parc qui est dieselisé à plus de 60% encore aujourd'hui. Et donc, les conséquences sanitaires, elles sont dramatiques. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la majorité des oxydes d'azote qui sont produits par le trafic routier, la majorité des particules fines qu'on respire en ville qui viennent aussi du trafic routier, avec un Parisien sur deux qui aujourd'hui, au quotidien, respire un air qui nuit à l'environnement et donc à sa santé, avec des conséquences sanitaires que l'on connaît, c'est-à-dire une espérance de vie réduite qui a été estimée à environ 9 mois, une surmortalité, c'est-à-dire des morts prématurées à l'échelle française. Alors là, on parle évidemment de toute la pollution de l'air, c'est le chiffre de 48 000. À l'échelle de la métropole de Paris, on est à environ 6 500 décès prématurés. Donc les conséquences, elles sont là. Et donc ça veut dire qu'il faut effectivement organiser cette sortie du diesel. C'est ce que nous faisons à Paris avec Anne Hidalgo, puisque notamment maintenant, nous sommes dans ce qu'on appelle une zone à circulation restreinte, ce qu'on appelle une zone à basse émission dans d'autres pays, depuis la loi de transition énergétique qui nous le permet avec le vote en 2015, et nous allons passer à une nouvelle étape avec, au 1er juillet 2017, l'interdiction des véhicules diesel d'avant 2001, dans notre, je dirais, marche progressive vers la sortie du diesel.
Vous applaudissez dès demain, François Roudier.
Bah écoutez, je vais vous surprendre, mais nous on est totalement partenaire et totalement d'accord avec ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a une vision d'une opposition constructeur écologie-environnement qui est totalement fausse maintenant. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que d'abord nous, on a toujours soutenu le plan de la mairie de Paris, puisqu'il faut sortir les vieux véhicules. Si vous sortez les vieux véhicules diesel et même essence, vous diminuez de 50% du jour au lendemain les émissions des véhicules dans la région parisienne. Voilà. Au-delà de ça, on a des accords, vous avez des partenariats avec des ONG comme Transport et Environnement, qui est la grande ONG au niveau bruxellois, entre PSA par exemple, qui travaille avec eux, avec le Bureau Veritas. Il y a un vrai travail en commun, si vous voulez, entre s'ignorer et se balancer des anathèmes et travailler ensemble. On voit que c'est plus intelligent de travailler ensemble, parce que finalement tout le monde apporte quelque chose.
Jérôme, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci à vous. Bravo pour vos émissions qui sont toujours très intéressantes.
Merci à vous.
Je vous en prie. Voilà, je fais 100 km par jour de trajet, travail et scolaire. Le tout confondu, je me suis renseigné sur un véhicule électrique et ça n'est pas rentable parce que le véhicule est trop cher à l'achat, la location de la batterie en fonction des kilomètres que l'on fait et au bout de 1000 recharges pour acheter une batterie qui coûte l'aide que l'État nous a donnée quelques années avant. Alors pourquoi le prix de l'essence ne descend pas en dessous du prix du gasoil, car moins polluant? Au lieu que le gasoil monte au prix de l'essence et qui reste encore même à ce niveau-là avantageux parce que moins...
parce qu'on en consomme moins, bien sûr. Ouais.
Voilà. Et puis, la c'est vrai que les marchés des véhicules neufs sont en augmentation sur l'essence, mais le marché de l'occasion, qu'en est-il ? Je pense que le diesel est en progression parce que les gens n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un véhicule essence neuf.
Merci Jérôme pour cet ensemble de questions que je transmets. Voilà. Stéphane Kerkhoff, vous voulez commencer ?
Tout simplement parce que l'énergie est notre avenir, économisons-la. Voilà, il y a une formule qui revient en bas de chaque pub et l'enjeu, c'est de prendre en compte la raréfaction des ressources pétrolières. Il y a un élément économique très visible, c'est quand le prix des matières premières, quand le prix du pétrole baisse, le nombre de kilomètres augmente. On a tendance à le gaspiller. Donc à un moment, ça a un prix. Après la transition et la dédiésisation du parc automobile, il faut qu'elle soit financée. Il ne faut pas qu'on laisse les gens qui ont un vieux diesel, qui n'ont pas les moyens d'orchestrer la transition, financer cette transition. Donc l'enjeu, c'est de rehausser le prix du diesel et d'affecter les sommes collectées à ce changement pour financer justement cette dédieselisation du parc automobile.
François Roudier.
Mais dans l'analyse de l'auditeur, là, je comprends pas bien, parce que lorsqu'on parle de prix d'achat de batterie, il y a beaucoup de constructeurs, dont le plus gros, dont je citerai pas le nom, qui a un losange comme logo, qui ne vend pas sa batterie Toyota. Sur ses voitures, voilà. Mitsubishi. C'est dans le groupe d'ailleurs maintenant. Ça a été racheté. Mais justement, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, la batterie est louée. Parce qu'il y a une telle évolution technologique sur les batteries que pour les constructeurs, c'est mieux de vendre le véhicule et progressivement peut-être de changer la batterie dans 2-3 ans par une technologie nouvelle. Donc je pense que sur 100 km, son calcul n'est peut-être pas forcément exact. Alors s'il faisait 200 km, oui, d'accord. Mais enfin maintenant, vous avez des rayons d'action de véhicules qui sont donnés à 400, mais en conditions horribles avec la climatisation à fond ou le chauffage à fond, vous faites 320 km. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même... être prudent sur l'électrique qui se développe vraiment très bien actuellement.
Stéphane Kerkhoff.
Oui, juste un élément. On critique les cycles d'homologation sur le diesel et sur l'essence. On peut les critiquer aussi sur l'électrique. C'est sans éclairage, sans chauffage, sans climatisation, sans essuie-glace. Vous faites 200 km. En hiver, où il pleut, où vous devez chauffer l'habitacle, globalement, vous descendez l'autonomie d'un facteur quasiment 2. Hein. Donc, bien attention.
Ouais, monsieur l'adjoint au maire veut ajouter un mot.
Non,
c'est pas obligatoire. Hein.
L'électrique peut faire partie de la solution pour les villes évidemment.
Oui, il y avait un aspect de la question de Jérôme, c'est pourquoi le prix de l'essence ne baisse pas et qu'on fait monter le prix du diesel. Qui veut répondre?
Il me semble quand même que dans le programme Christophe du président de la République, alors normalement je suis pas censé le défendre, mais quand même j'ai noté qu'il y avait quand même une augmentation de la fiscalité sur le diesel, mais aussi en même temps une diminution de la fiscalité sur l'essence. Et en fait, c'est dans la suite de ce qu'avait fait le précédent gouvernement avec la loi de transition énergétique, donc d'augmenter d'un centime la fiscalité sur le diesel et de diminuer en même temps d'un centime sur l'essence.
Stéphane Kerkhove.
Nicolas Hulot, président de la Fondation éponyme, défendait ce rééquilibrage. J'espère que Hulot Nicolas, ministre de l'écologie, continuera à défendre cette position et réussira à convaincre ses collègues du gouvernement de rééquilibrer une fois encore, non pas pour sanctionner les utilisateurs de diesel, mais pour amorcer une pompe financière qui permet d'orchestrer cette transition.
François Roudier, un mot?
Constructeur et gouvernement, on est sur le même credo, donc pour nous c'est tout à fait possible. Bon, il y a un chiffre quand même, c'est que les taxes sur le carburant représentent 43 milliards d'euros pour l'État, donc ça compte aussi derrière tout ce débat.
Guylaine, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci beaucoup. Bon, mais comme tout le monde, je vous remercie pour vos émissions que
c'est
j'écoute
gentil.
Tous les soirs.
C'est
ce
gentil.
Soir, je suis un peu en colère, alors c'est
allez-y.
Pour ça que j'appelle. Moi, j'écoute ces messieurs bien pensants qu'il y a autour de vous. Je comprends tout à fait ce qu'ils disent. Il y a quelques années de ça, je suis âgée d'une soixantaine d'années, hein, je vous le dis. Donc, il y a quelques années de ça, je suis du milieu ouvrier, puisque je gagne le SMIC, hein, et je travaille encore. Il y a quelques années de ça, on roulait au super, donc on nous a expliqué, comme vous venez de le faire actuellement pour le diesel, que le super, effectivement, c'était pas bon pour la santé, c'était pas bon. Donc tous les gens aisés avaient les moyens de s'acheter du diesel. Les ouvriers, nous, il a fallu qu'on galère un peu plus et on est passé au diesel. Et maintenant, on serait en train de nous dire, messieurs dames, soit vous vous mettez à l'électricité. Bon, ça encore, qui est-ce qui va pouvoir en bénéficier? Toujours la même classe sociale, je pense. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire de nos diesels si on ne peut pas changer de voiture? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dira quand ce sera l'électricité? Je sais pas, les centrales nucléaires qui pourront plus produire d'électricité. Est-ce qu'il faudra qu'on s'achète des vélos peut-être à ce moment-là? Je sais pas, on polluera plus. On reviendra comme en 45, peut-être, je sais pas.
Peut-être.
Je me pose la question, mais vraiment, il y a des fois où je me demande, je sais pas quel âge ont vos intervenants, hein, ni dans quel milieu ils évoluent.
Il y a un mélange de très jeunes et de très vieux, Guylaine, dans ce plateau.
Et moi, je vois autour de moi quand même, je suis sous-intendante dans un collège, je vois autour de moi mes collègues, qui sont un peu dans la même situation, je pense que demain on va en parler. Voilà.
Merci beaucoup Guylaine pour votre intervention. C'est vrai qu'il y a des effets de mode, ou en tout cas il y a des cycles. L'essence c'est bien, non en fait c'est pas bien, passer au diesel, maintenant le diesel c'est pas bien, il faut aller à l'électrique. La description est parfaite Stéphane Kerkhove.
Oui, très clairement la mise en place du bonus-malus qui visait justement à dissuader l'automobiliste d'acheter des gros véhicules très émetteurs de CO2 s'est traduit par une explosion de la vente des véhicules diesel. Voilà, donc à un moment, il ne faut pas, et on le répète, que les demandes de dédiélisation du parc se traduisent par une fracture sociale. Donc il faut un accompagnement, il faut qu'objectivement, il n'y ait pas une espèce de double ou triple peine, à savoir les gens qui ont peu de revenus, qui sont prisonniers du diesel, et tout à la fois comme conséquence d'inhaler des particules toxiques, et en être prisonnier et de ne pas pouvoir le changer. Donc il faut qu'à un moment, l'État et les collectivités mettent en place des financements pour organiser, je le répète, cette transition.
Monsieur l'adjoint à la mairie, à la maire de Paris, chargé de toutes les questions relatives au transport, à la voirie, au déplacement et à l'espace public, vous avez la parole.
Il y a une responsabilité des pouvoirs publics qui ont clairement encouragé le diesel. Alors depuis les années 80 jusqu'à il n'y a pas très longtemps, puisque le système du bonus-malus ça date de 2008. Et puis on s'est rendu compte que ce système, en fait, il avait des effets pervers puisque il était mauvais par rapport aux polluants locaux que sont les particules fines et les oxydes d'azote. Et donc, ce qu'il faut effectivement, c'est que les pouvoirs publics définissent une politique claire et cohérente de lutte contre la pollution globalement et pas simplement contre tel ou tel type de pollution, et surtout que l'on accompagne les Français. Et moi, je comprends tout à fait l'auditrice qui dit que on nous a baladés puisque on nous demandait d'acheter tel type de véhicule et puis maintenant c'est plus comme ça. Simplement, ce que l'on fait à Paris, puisqu'on parle de restrictions de circulation à Paris, elles n'ont lieu qu'en semaine, du lundi au vendredi entre 8h et 20h, c'est-à-dire au moment de la semaine où on a aussi d'autres alternatives pour se déplacer. Et on accompagne aussi les professionnels, les artisans et les commerçants qui ont besoin de leur véhicule comme outil de travail avec des aides qui sont cumulables avec les aides de l'État pour pouvoir donc passer à des véhicules qui soient plus propres.
Xavier, bonsoir.
Bonsoir Nicolas et bravo pour vos émissions.
Merci et nous vous écoutons. J'espère que vous n'êtes pas en train de rouler en voiture et de téléphoner en même temps.
Non, pas du tout. J'ai le kit Bluetooth, on va dire.
c'est interdit. Allez-y Xavier, j'ai rien dit.
Je voudrais parler par rapport à votre auditeur de tout à l'heure qui était un aficionados des véhicules diesel. Je suis un petit peu comme lui, je n'ai que des véhicules diesel qui ont à peu près une dizaine d'années. Et je roule pas qu'au diesel, je roule avec des additifs, c'est-à-dire de l'huile de colza ou des huiles usagées. Mmh. Et je voudrais savoir justement si à ce niveau-là je pollue autant qu'un véhicule diesel normal ou si je me rapproche d'un véhicule essence.
Merci.
Si c'est pas une solution alternative.
Merci beaucoup Xavier pour cette question. Je salue Jacques de Charente. Bienvenue, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons. Oui, parfaitement bien.
Ok, oui, bon, merci beaucoup pour vos émissions. Moi, j'avais une alternative au diesel à proposer, enfin, qui fonctionne très bien. Je roule depuis 17 ans et 4 véhicules au GPL, avec la bicarburation GPL. Et on en parle vraiment très, très peu. Alors, la question pour moi, je pense que c'est parce que c'est moins pratique pour les constructeurs, parce que le surcoût à installer du GPL, il faut s'en occuper. Mais en fait, c'est quand même un carburant qui est très intéressant. Il est économiquement, alors il est détaxé par l'État puisqu'on est à 70 centimes du litre, et en fait, il pollue très très peu. Il n'y a pas d'hydrocarbures, il n'y a pas de particules, donc c'est une alternative qui est très intéressante pour des gros rouleurs ou des moyens rouleurs, en fait. Moi, j'ai fait à peu près 400 000 kilomètres au GPL, et on utilise un tout petit peu d'essence, qui pollue quand même moins que le diesel, et voilà, alors il y a un surcoût à l'achat un petit peu, mais qui est moins important que les véhicules diesel, et ça fonctionne très bien. Donc, on ne l'a pas favorisé du tout en France.
Ouais. Merci voilà. Jacques pour cette intervention. Alors sur les huiles, le mélange huile plus diesel dont parlait Xavier, pollue-t-il plus ou moins ?
Là, François, c'est très discutable. Hein. Il faut faire attention à ce qu'on met dans les moteurs, parce que vous avez des polluants vraiment toxiques sur certaines huiles usagées. Après, il y a tout le débat sur les biocarburants, qui est là aussi extrêmement complexe. Et puis sur un plan technique, attention à ces carburants qui ont tendance aussi à manger un peu l'intérieur des moteurs.
Le GPL ?
Alors le GPL en fait a pas été aimé par certains gouvernements en France. C'est curieux parce que lorsque le bonus malus a été lancé, le GPL était dans le cadre, et d'ailleurs il y a eu beaucoup de ventes de petites voitures, je pense au Sandero en GPL, ça a très bien fonctionné, puis d'un seul coup ça s'est arrêté. Or, on sait par exemple que le gaz naturel, le GNV, alors qui n'est pas du GPL mais qui est toujours à base de gaz, c'est sûrement la solution pour le transport routier des camions et des petites camionnettes. Donc le gaz va revenir.
Stéphane Kerkhoff, Christian Najdowski.
Le monolithisme en termes de motorisation est derrière nous. C'est-à-dire que le tout diesel, manifestement, a vécu. C'est tant mieux, parce qu'au regard des effets sanitaires, on a chacun mesuré les dégâts que ça a occasionné. Après, la multiplicité des offres, il faut faire attention. On voit bien qu'entre l'électricité, les agrocarburants, le GPL, etc., etc., s'il faut faire 150 km pour remplir son réservoir, je pense que ça ne fonctionnera pas. L'électricité a des effets. À nouveau, il faut inverser les choses, c'est-à-dire parler en termes d'usage plutôt qu'en termes de moteur. En ville, par exemple, l'usage pour faire moins de 1 ou 3 km, c'est pas la voiture. Et donc là, il faut faire une révolution. Il fallait adapter pendant 30 ans la ville à la voiture. Et là, on est en train de s'apercevoir qu'il y a trop d'effets collatéraux. Et on est en train de retrouver la mesure des choses. La marche à pied, le vélo, les transports en commun, le covoiturage, je le disais tout à l'heure, ce sont les bons outils pour se déplacer en milieu urbain.
Christophe oui. Najdowski.
Le GPL est un carburant qui est intéressant. Alors, il a mauvaise presse parce que c'est du gaz et il y a eu les histoires de soupapes par le passé qui ont en quelque sorte un peu tué le GPL. Il a du mal à s'en relever alors qu'en réalité, maintenant, les questions de sécurité ont été réglées. Et donc, c'est vrai que ça peut être une alternative. Et d'ailleurs, nous, on était intervenus auprès de la ministre Ségolène Royal à l'époque pour faire en sorte que le GPL soit classé dans les critères 1. c'est-à-dire l'équivalent des essences récents, et c'est le cas. Et donc, si vous êtes avec un véhicule GPL, eh bien, vous faites partie des véhicules qui sont les moins émissifs. Il y a un autre carburant qui est intéressant, c'est les GNV, gaz naturel, véhicule, et le bio-GNV, qui peut être produit à partir de la méthanisation des déchets. L'intérêt, c'est qu'on est dans de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on utilise le méthane produit par la fermentation des déchets, on le réinjecte comme carburant, et donc c'est parfaitement propre, et c'est une production en plus locale, on n'a pas besoin d'importer du carburant, donc c'est l'avenir. Et par exemple, sur les bus de la RATP, à l'objectif 2025, eh bien, il y a un objectif de pratiquement 1000 bus de la RATP pour fonctionner au bio-GNV.
Agnès, bonsoir.
Oui, bonsoir, merci pour vos émissions.
Merci à vous, 20 minutes d'attente au standard, je suis désolé.
C'est rien. Je vous appelle parce que moi j'habite à la campagne et je suis maman de 5 enfants. Donc nous, on a 2 grosses voitures de type espace et utilitaire. Et on n'a pas tellement le choix, en fait, parce que l'essence, ben, vu le nombre de kilomètres, ça nous coûte trop cher. Et puis l'électrique, ben, pour 5 enfants, ça n'existe pas.
Merci Agnès. François Roudier vous répond.
Mais Monsieur Kharkov parlait de la fracture sociale, il y a aussi une fracture géographique. Hein. Et je crois que c'est ça aussi que nous avons en France, on a un problème. Vous savez, les différences de motorisation en France sont extrêmement importantes. Hein. On est à peu près à 8 Français sur 3 qui sont motorisés. En fait, lorsque vous regardez au niveau des ménages, on a 4 ménages à Paris et 9, voire quasiment 9,5 dans les zones rurales. Donc, on a des problématiques qui, effectivement, entraînent cette multi-motorisation, cette multi-utilisation des véhicules, alors qui commence à se faire sentir. Hein, quand on voit l'essor du covoiturage dans les campagnes, c'est une des raisons de la chute de trafic dans les TER. Mmh. Donc on voit très bien que ça commence à fonctionner. Mais ceci dit, lorsque vous êtes dans une problématique avec 5 enfants, donc vous avez besoin d'un véhicule qui a au moins 7 places, là on est sur un créneau extrêmement étroit.
Stéphane Kharkov.
Alors, j'ai 3 enfants et j'habite à la campagne. J'ai donc 2 voitures. Ça m'arrive de me déplacer. Après, je reste conscient que, objectivement, il faudra faire une révolution aussi en termes d'urbanisme, en termes de services à la campagne, de façon à ce qu'on n'aille pas chercher le tribunal ou l'hôpital à 100 ou 150 kilomètres. Et les concentrations qui sont en train de s'opérer à l'échelle des territoires vont générer des kilomètres supplémentaires. Donc à un moment, il faut aussi raisonner, non pas à nouveau en termes de moteur, mais en termes d'urbanisme.
On retourne au standard. Bruno, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez du Var, bienvenue.
Oui, merci. Oui, moi je m'interrogeais sur la recherche sur la pile à hydrogène qui a été utilisée sur des bateaux, des chalutiers et qui ne génère pratiquement aucune pollution. Donc où en est-on en ce moment sur ce moteur propre Enfin, voilà, je voulais poser simplement cette question.
Merci Bruno, on va essayer d'y répondre. François Roudier.
Alors c'est une technologie qui fonctionne mais qui est extrêmement coûteuse. Hein. BMW a une voiture à 1 million d'euros qui roule avec ça. On pense qu'il y a 2 options, soit on réussit à vraiment diminuer le coût de ce système et il deviendra compétitif, soit si on réussit pas à le diminuer, la progression de la technologie sur les batteries de véhicules électriques actuels qui serviront à la fois pour des véhicules 100% électriques ou des véhicules hybrides fera que de toute façon cette technologie sera déclassée par son prix.
Stéphane Kharkov.
À nouveau, l'hydrogène n'est qu'une technologie, il faut bien la produire. Si elle est produite avec du fioul, du charbon ou du nucléaire, on a
déplacé
le problème. La solution, je le répète, c'est moins loin, moins souvent, moins vite. Une fois que vous raisonnez comme ça, par exemple, si sur les autoroutes, sur les nationales, vous passez de 130 à 110, de 90 à 80, vous gagnez immédiatement 14% de consommation sur les autoroutes en passant de 130 à 110. Voilà, ça c'est des éléments très concrets, on n'est pas obligé d'attendre une hypothétique révolution à l'hydrogène.
Eric, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Oui, bonsoir. Alors, je vous entends depuis plusieurs fois là dans votre émission concernant les problèmes de pollution. Alors moi, je comprends très bien l'ensemble des Français au niveau des kilomètres qu'ils ont à faire pour aller à leur travail. Alors rapidement, moi, ça fait 10 ans que je roule à l'éthanol. L'éthanol, c'est de l'essence végétale. On en trouve chez Total. Donc ça fonctionne sur des véhicules essence. L'éthanol, ce qui signifie que vous avez 80% d'essence végétale et 20% d'essence normale. qui permet de diminuer évidemment de 80% les rejets nocifs dans l'atmosphère. Voilà, donc la solution, elle n'est pas dans des comptes d'apothicaire sur des pourcentages de 10%, de 5%. La solution, elle est sur l'éthanol qui est en vente chez Total en France. Mmh. Sans vouloir faire de publicité pour Total, sachant qu'on n'est pas sur une histoire de lobbying. Je reviens d'Italie. En Italie, ça fait 5 ans qu'ils roulent au méthane. Et méthane qu'on trouve dans les stations-service avec une grande marque de voitures allemandes qui propose ces véhicules qui peuvent rouler au méthane. Donc la solution, elle est ni sur l'hydrogène, selon moi, ni sur des histoires de batteries électriques et de voitures électriques. Voilà. Et la plupart des véhicules essence peuvent rouler en neuf, en véhicule neuf. Les véhicules essence peuvent rouler à l'éthanol. Voilà, en vente dans des grandes stations-service, de grands distributeurs comme de compagnies pétrolières.
Merci voilà. Eric, merci pour cette intervention. Qui veut réagir, qui veut rebondir? Oui, François Roudier.
Écoutez, je vais être plus écologiste que mes deux comparses. Il faut faire attention avec quoi l'éthanol est produit. Hein, vous avez en Amérique du Sud, je pense au Brésil en particulier, de l'éthanol qui est fait à partir de canne à sucre en détruisant la forêt amazonienne. Donc là aussi, on retombe sur une problématique essentielle, c'est ce qu'on appelle l'énergie du puits à la roue. Et c'est ce qui va être essentiel dans l'énergie future.
Stéphane Kerkov.
Oui, pas mieux. objectivement, il y a eu beaucoup de controverses et un bilan qui a été fait sur l'analyse de cycle de vie des ce qui était à l'époque appelé biocarburant et qu'on appelle les agrocarburants et qui, objectivement, quand vous regardez globalement, vous avez un bilan carbone qui est quasiment équilibré, c'est-à-dire que ce que vous réussissez à gagner au travers de l'utilisation de l'éthanol, vous le perdez au moment où vous le produisez.
Depuis qu'il est quasiment impossible de rouler dans Paris, Christophe Najdowski, est-ce que la qualité de l'air est bonne au moins ?
La qualité de l'air s'améliore à Paris d'année en année, malgré le fait que l'on soit encore au-dessus du niveau des normes européennes. Et si on est au-dessus du niveau des normes européennes, c'est précisément à cause de la dieselisation du parc automobile. C'est ce que dit Air Paris, l'organisme qui mesure la qualité de l'air. Mais il est clair que la solution, c'est pas plus de voitures ou seulement de changer le type de motorisation, ça fait partie de la solution, mais il faut aussi travailler sur le report modal, sur les alternatives à l'usage de la voiture, le transport public, la marche, le vélo qui a sa forte pertinence en ville et notamment avec les vélos à assistance électrique. Donc l'avenir, il est à la multimodalité, notamment dans les villes.
C'est fait les JO pour 2024 ?
Écoutez, ça, je sais pas si c'est fait, mais en tout cas,
j'ai essayé,
Paris,
hein.
Paris est
non, il paraît que c'est plié, là, que vous le savez, que vous avez pas le droit de le dire.
Non. On a vu une information qui disait que Paris aurait 2024 et Los Angeles 2028. Mais moi, je confirme rien du tout. Ça reste encore. Je crois que la décision, elle aura lieu le 13 septembre, donc. Gardons raison et donc attendons le 13 septembre.
Donald Trump n'a pas encore tweeté, non.
Ouais. C'est marrant,
non,
je ne crois pas.
Ouais. Non, honnêtement, je ne sais pas. J'ai vu l'information cet après-midi, mais j'en ai aucune idée.
Non, allez, merci Christophe Najdowski, Stéphane Kerkov, François Roudier. Énormément d'appels ce soir au standard. Merci, amis auditeurs d'Inter.